il y a une tendance fâcheuse, c'est de mettre les enfants de côté en pensant que quand ils seront un peu plus grands, ils pourront servir pour l'Éternel. Je suis désolé, mais les enfants, dès leur plus jeune âge, ils peuvent servir pour l'Éternel. Moi, je connais un enfant, à 12 ans, il prêchait. À 12 ans. À 10 ans, il y en a un qui priait pour les malades. Et les malades étaient guéris. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit donnait à tous et que nous avons reçu le même Saint-Esprit qui ressuscita. Alléluia. Ouh, on est timide ce matin. Alléluia. Amen. Ah. Ce matin, c'est un message un peu particulier que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est quelque chose qui a été longuement mûri, longuement discuté avec mon épouse. Je crois que ce message, on aurait pu en faire 3 ou 4, ou il peut être en plusieurs parties, tellement qu'il y a de choses. Et étonnamment, quand j'ai voulu le mettre par écrit, pour vous l'apporter, il m'a dit « ça suffit, ça te suffira ». Je n'ai jamais eu un message aussi court. Mais je peux vous dire à quel point il peut être important dans mon cœur. Et justement, le thème de ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur, on discutait quel thème, quel titre qu'on pouvait lui donner. C'est le désir du Père ou le désir du cœur du Père égale la délivrance. Notre Père veut nous délivrer. Et je voudrais vous amener dans un schéma où les enfants ont toute leur place. Parce qu'on va parler de personnages qu'ils ont entendus à l'école du dimanche, et on va voir s'ils ont bien écouté leur moniteur, leur monitrice. On va parler de deux personnages bibliques qui est Noé. Ça vous rappelle quelqu'un ? Hein ? Allez, alors, vu que vous êtes timide, on va juste lever la main. Qui connaît Noé ? Les enfants ? Après, on verra pour les grands-enfants. Qui connaît Noé ? Oh là 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 ! Et une histoire peut-être un peu moins racontée au club du dimanche, Lot. Lot. Alors, c'est pas le poisson là qu'on ramène au fond de la mer qui est un peu moche-touille. Hein. C'est pas la Lot, c'est Lot. Le neveu d'Abraham. Lot. Et le Seigneur m'a mis en parallèle ces histoires. Mais il a voulu me les mettre en relief. Parce qu'avant, je lisais, comme tout bon chrétien, je lisais la Bible et je m'arrêtais à ce qui était écrit. Et plus ça va, plus le Seigneur m'emmène là où ce n'est pas écrit, mais là où ça transpire. Des situations qui ne sont pas décrites, mais qui sont, qu'on passe très très vite, parce que c'est écrit des fois en 2 lignes, mais ô combien ces 2 lignes, des fois, ont mis combien d'années à s'accomplir. Et l'idée que le Seigneur m'a donnée, a surtout donnée à ma femme, et j'ai dit, oh oui, c'est une bonne idée. Quand nous avons acheté notre maison, nous avions un jardin qui ressemblait plutôt à une forêt vierge, avec des ronces, des arbres qui avaient poussé n'importe comment, à tel point qu'on, pour ceux qui connaissent, pour le peu qui connaissent mon jardin, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui... On ne pouvait pas traverser le jardin. On ne pouvait pas traverser le jardin à moins de se pencher. Et au milieu de ce jardin, complètement laissé à l'abandon, avec des ronces, des arbres qui poussaient dans tous les sens, etc., il y avait un petit sapin. Oh, il n'était pas bien grand, il devait faire quoi ? Il était 50 cm. 50 cm. Et ce sapin était écrasé, oppressé. Au-dessus de lui, il y avait un cerisier majestueux, donc déjà, il n'avait plus beaucoup de lumière. Autour de lui, il y avait des ronces, des herbes qui poussaient, qui faisaient qu'il avait du mal à se développer. Et le grand-père de mon épouse, quand elle est venue, il est venu chez nous, il a vu, il a dit, tu sais ce sapin, si tu le prends et que tu le déterres, que tu le mets à la lumière, il vivra. Il est en train de mourir. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a obéi. On a pris ce petit sapin, donc j'ai essayé de le déterrer au mieux que je pouvais. Et je l'ai transplanté devant ma maison, en plein soleil. Je lui ai délimité une zone pour lui, l'ai installé. Au jour d'aujourd'hui, il fait plus de 2 mètres de haut. Et je suis obligé de le tailler parce que sinon, au bout d'un moment, j'aurais même plus de lumière devant. Je voudrais juste vous donner cette image de ce que Dieu fait pour nos vies. À tout début, Dieu fait un constat. Il regarde. Et il regarde l'état. Alors, je voudrais vous inviter à rentrer dans ces deux domaines-là, qui est pourquoi Dieu veut nous délivrer. Parce qu'il y a quand même cette question qui peut se poser, au fait, pourquoi Dieu veut nous délivrer, hein, Corinne? Et c'est quoi son but? Quel est son but de nous délivrer? Parce qu'il est cool? Parce qu'il est sympa? C'est quoi le but de Dieu de vous délivrer? Vous êtes posé la question? Amen! Une bonne réponse. Allez! Pourquoi Dieu a décidé de vous délivrer? Je vous rappelle que je suis de la même nature que vous et que j'étais dans un seul but, à la perdition éternelle. Mais Dieu a manifesté son amour pour que je sois délivré, que tu sois délivré. Dans quel but? Quelle est ta raison au jour d'aujourd'hui dans ta vie? Quelle est ta raison de vivre? Quel est le but que Dieu a mis dans ton cœur? Si tu n'as pas de but, il y a un problème dans ta vie. Parce que Dieu a toujours un but dans tout ce qu'il fait. Dieu a toujours un but dans tout ce qu'il fait. Déjà, c'est pour ton épanouissement personnel. Parce que ce monde, c'est comme mon petit sapin, tu es environné de ronces, de mauvaises herbes. Et tu as un joug au-dessus de toi qui te mange la lumière qui vient de Dieu. Et Dieu va te prendre, il va prendre soin de toi, il va te déterrer. Alors ça, déterrer veut dire que des fois, il faut couper des racines. Ah, ça fait mal. Mais il va t'emmener dans une bonne terre. Il va te délimiter ton espace. Et tu pourras profiter de la lumière et de l'eau en abondance. Et donc, ça va te permettre de prospérer. Donc, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu t'épanouisses. Et quand je dis épanouis, c'est dans tous les domaines. Esprit, âme et corps, financier, spirituel et céleste. Le deuxième but de Dieu, c'est que tu portes du fruit. Vous connaissez les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la joie, la douceur, la tempérance, etc. Il veut que tu les portes. Je ne prêcherai pas aujourd'hui sur le fait que si tu ne portes pas du fruit, bah, tu seras émis au feu. Mais que tu es appelé parce que tu as été racheté à porter du fruit. Tu es appelé. Et la troisième chose, c'est pour l'avancement de son royaume. Donc c'est que tu as une utilité dans la maison où là le Seigneur t'a mis pour te permettre d'être utile au milieu de tes frères et sœurs. Tu as une utilité. Petits et grands, tu as une utilité. Alors comment il s'y prend le Seigneur pour faire cela? Il va commencer par faire un constat des lieux. De faire un constat des lieux, et on va pouvoir le lire dans Genèse 6, 5 à 6. Genèse 6. Genèse 6. Le verset 5 et 6. Dieu fait un constat. Et si vous cherchez un peu mieux dans la parole de Dieu, vous verrez que souvent Dieu fait un constat des lieux. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regrettait d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Mes frères et sœurs, je voudrais mettre en lumière ce passage-là, où Dieu fait un constat. Il a créé le ciel et la terre, il a tout fait. Il a mis l'homme qui a chuté. Et l'homme, tous ses désirs ne vont être que tournés vers la méchanceté. En vérité, ses désirs sont tournés vers lui. Et regardez bien la fin du verset, parce que je voudrais que vous en soyez conscients. Parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont oublié ce détail. Vous pouvez affliger le cœur de Dieu. Vous pouvez affliger, vous pouvez rendre triste votre Dieu. Parce que votre orgueil, votre petite nature, ma nature, à vouloir être orgueilleux, à dire « oui, mais moi, j'attriste Dieu et j'ai oublié qui je suis. » Si la parole nous encourage à porter chaque jour notre croix, c'est que chaque jour l'Éternel nous rappelle d'où est-ce que nous venons et par qui nous avons une grâce excellente. Nous pouvons affliger le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu était affligé. Et les enfants, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Il a regardé et il a trouvé un juste. C'est qui ce juste? C'est Noé. Est-ce que c'était une opération facile pour Noé qui va se dérouler? On le verra après. Dans Genèse 6, du verset 8 à 9, mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Pourquoi j'ai mis 8 à 9? Après, c'est sa postérité. Verset 8. Noé trouva faveur aux yeux de l'Éternel. Est-ce que ce matin, tu trouves faveur au regard de l'Éternel? Moi, je rends gloire à Dieu parce que beaucoup de choses, ce sont des choses que je vis au travail. Parce que j'ai des frères et sœurs que je côtoie au travail et que je peux discuter avec eux. La dernière fois, j'en discutais de ce message avec un frère, j'étais limite à pleurer dans le bureau. Je me suis retenu, j'allais pleurer. Parce que quand vous connaissez le cœur de Dieu, de dire que cette méchanceté, cette haine, cet orgueil nous emmène dans des chemins de destruction. Et on a oublié de quelle grâce nous sommes, par quelle grâce nous avons été sauvés. Vous savez, Dieu m'a fait une grâce, alors je ne sais pas si c'est une grâce, mais en tout cas, je sens très souvent quand je prie pour les gens, je sens la souffrance qu'ils ont. Et si vous saviez le nombre de fois que je prie en pleurant. Dernièrement, ce n'était même plus des pleurs, c'était des cris. Voilà, ça monte. Non, Dieu vous aime. Si vous saviez à quel point Dieu vous aime, si vous saviez à quel point vous avez de l'importance, de la valeur que vous avez. Dieu fait un constat, il fait le constat dans ta vie, il sait où tu en es, dans quel état est ton cœur. Il sait. Il a fait le constat de ta vie, il sait exactement où tu en es, il sait où là tu as accepté, il sait là où tu as fait du compromis. Tu peux faire l'état des lieux de ton cœur. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin de frères et sœurs. Le Saint-Esprit te parle jour après jour. Mais combien de fois nous refusons d'écouter? Mais dans son sa grâce immense, Dieu ne cache pas ses plans. En premier lieu, il fait un constat. Et en deuxième lieu, il dévoile ses plans. Dans Genèse 6, à partir du verset 13, Dieu définit son plan à son serviteur Noé. Dans dans Genèse 6, verset 13, il dit « Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé. » Donc Dieu dit ce qu'il a décidé. Dieu ne cache pas à ses serviteurs, à ses servantes ce qu'il va faire. Dieu dit « Alors, Dieu dit, j'ai décidé de mettre fin à tout être vivant, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc détruire avec la terre. » Mettez-vous un peu à la place de Noé. Moi, j'aime bien me mettre à la place des personnages. Vous êtes déjà dans une ambiance sympathique. La terre est remplie de violence. Et Dieu dit, voilà, je vais tout détruire. Dieu dit, il va tout détruire. Vous vous rendez compte? Dieu va tout détruire. Non mais t'es pas sérieux, Dieu. C'est quand même toi qui as créé les plantes. C'est toi qui as créé les animaux. C'est toi qui m'as créé. Et Dieu vient de dire à Noé, je vais tout détruire. Combien de chrétiens au jour d'aujourd'hui, nous pouvons lire dans la parole, buvons, mangeons, tout va aller bien, on verra, on a le temps. Sais-tu quand est-ce que Dieu, l'Éternel va revenir? Sais-tu quand est-ce que Dieu a décidé la fin des temps? Sais-tu si tu auras le temps d'arriver à la retraite ou à la vieillesse? Sais-tu si tu vas arriver jusqu'à les enfants? C'est maintenant qu'il faut décider. Parce que quand vous vous retrouvez à enterrer des enfants, ou accompagner une famille qui a perdu un enfant, 12 ans, écrasé par une voiture, et la personne n'a eu le droit qu'à 6 mois d'emprisonnement. C'est maintenant qu'il faut décider. C'est dur. C'est maintenant. L'Église, c'est quoi? C'est la famille de Dieu. Il faut se dire la vérité. C'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir. Dieu dévoile ses plans. Et il te dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Dans Genèse 6,14, là carrément tout le plan de sauvegarde va être donné parce que Dieu est bon. Ah bon, tu veux tout détruire, mais il a quand même un plan. Dans Genèse 6,14 à 21, il va tout dire. Fais-moi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche, etc., etc. Il va lui donner des plans. Alors, on va se remettre un peu dans le contexte, les enfants. Allez, imaginez. Noé a 500 ans. Il a 500 ans. Ah oui, quand c'est arrivé, il avait 500 ans. C'est à peu près, c'est l'âge où il a eu ses enfants, ses trois fils. Donc, il a eu le temps de traîner sur la terre, il la connaît très bien. Et là, d'un seul coup, Dieu lui dit, je vais tout détruire. Ouais. Vous allez construire une arche. Alors, une arche, c'est quoi? Allez, on va rigoler. C'est quoi une arche? Les enfants. Soyez pas timides, c'est pas grave si on dit une bêtise. Oui, Maël. Une grosse caisse en bois. Eh oui, c'est pas un bateau. Ce n'est pas un bateau, parce que souvent dans les livres d'enfants, on leur fait voir une arche à forme de bateau, avec une jolie proue, etc., etc., avec la girafe qui sort son cou de la fenêtre. Bon, c'est pas du tout ça, déjà. C'est une caisse. Tu vas construire une caisse avec des dimensions précises. Donc les enfants, là, au boulot, donc allez, tu vas me chercher le foin, tu vas prendre la scie, par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la hache, etc., etc., et au boulot. Et combien de temps ça va faire, on va mettre à la construire cette arche? Alors, il n'y a rien qui le dit. Il n'y a pas de temps qui est défini dans la parole de Dieu. Moi, j'ai cherché. C'est pas marqué que Moïse a mis 120 ans à la construire. C'est marqué nulle part dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de durée. Si ce n'est qu'on sait qu'il avait 500 ans quand il a eu le message, et on sait qu'il avait 600 ans quand il est rentré dans l'arche. Mais qu'à ses 500 ans, il a eu ses fils, sachant que ses fils l'ont aidé à construire l'arche. On pourrait estimer, je suis désolé de casser le mythe des 120 ans, à 80 ans. Et je dis bien, on peut estimer, il n'y a rien de marqué précis dans la parole de Dieu. Mais 80 ans, c'est long, non? Mais 80 ans, on se fout de toi. On se moque de toi. C'est encore plus long. Parce que la construction de l'arche, c'est une chose. Mais quand ils ont construit l'arche, vous connaissez les dimensions de l'arche? 144 mètres de long. Un terrain de foot, ça fait 120 mètres de long. 144 mètres de long. 25 mètres de large. 46 mètres de haut. Un immeuble. Ils ont créé un immeuble en bois. Sans porte, sans fenêtre. Enfin, il y avait une porte. Mais ce bois, il le recouvrait de quoi pour qu'il soit étanche? Vous le savez ou pas, les enfants? Eh bien, c'était du goudron de l'époque. Est-ce que vous avez déjà touché du goudron? Ça colle. Ça rend le bois étanche, mais ça colle. Donc ça veut dire que les enfants de Moïse, de Noé, merci, voilà, il y a un qui suit, c'est. Merci. Non, les enfants de Noé ont aidé Noé par obéissance à leur père d'une vision que lui seul avait reçue pendant 80 ans, où on se raillait d'eux, où ils sentaient mauvais et leurs mains devaient être couvertes de bitume. Ça s'en va pas si vous n'avez pas de dissolvant. 80 ans où on s'est fichu d'eux. 80 ans où ça devait être le week-end, tiens, on va aller voir les cinglés du coin, on va aller voir Noé et sa famille. Regarde, ils sont complètement cinglés. Oui, parce qu'il faut comprendre une chose dans l'histoire, c'est qu'il ne tombait pas d'eau du ciel. Les nuages n'existaient pas à cette époque-là. C'était la nuit, il y avait, le Seigneur faisait qu'il y avait une vapeur d'eau qui arrosait tout, et toute la journée, c'était du soleil. Alors, quelqu'un qui annonce que de l'eau va tomber du ciel fait un immeuble en bois pendant 80 ans. Ça fait beaucoup quand même, hein? L'arche était sur 3 étages. Alors pour vous donner une ordre d'idée, j'ai calculé les mètres carrés, parce que ça j'aime bien calculer moi. C'est si vous mettez à plat l'arche de Noé, ça fait un petit chouïa de moins, mais on va dire ça fait la superficie d'un terrain de football. Soit 10 444 mètres carrés. Ou 75 fois la superficie de ma maison. Ou, si vous avez 100 mètres carrés, 100 fois la superficie de ta maison. Ils sont amusés à construire un truc invraisemblable. Mais est-ce que nous, quand Dieu nous demande de faire des choses, est-ce qu'on les fait? Est-ce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, nous le faisons? Est-ce que nous obéissons à Dieu quand il nous parle? Et pourtant, Noé, il va le faire. Ses fils et ses fils vont le suivre. Et quand ce sera le moment donné, regardez la fidélité de Dieu. Ça aurait pu durer 90 ans, 100 ans, 120 ans, 140 ans, tant que ce n'était pas prêt, le déluge ne serait pas venu. Mais Dieu, quand tout était prêt, a dit à Noé et à sa famille, rentre dans l'arche. Les animaux sont arrivés deux par deux, à part des animaux spéciaux qui étaient plus nombreux Et c'est l'Éternel lui-même qui a fermé la porte. Nous avons quand même l'image d'un homme qui reçoit une direction de Dieu et qui va ne faire aucun cas de tout ce qui va se dire autour. Je ne sais pas, mais au jour d'aujourd'hui, moi je suis manager dans mon entreprise, je passe mon temps à régler des « oui, mais l'autre ». Oui, mais lui, il a le droit à ceci, lui, il a le droit à cela. Pourquoi tu lui as donné un jour à lui et pas à moi ? Déjà, ça ne te regarde pas. Mais je ne pense pas que tu aimerais être à sa place. Surtout quand c'est parce qu'il est parti, parce qu'il a perdu son père ou son beau-père. Ça ne te regarde pas. Est-ce que nous sommes suffisamment ancrés en Jésus-Christ pour que si Dieu nous parle, qu'il nous dit « fais ceci », nous obéissions sans rechigner, sans réfléchir? Ou est-ce que nous sommes là à réfléchir et puis à regarder les autres et puis dire bon, « finalement les autres font comme ça, pourquoi moi je le ferais ?» Non ? Ah, Jésus. Je vais vous donner un autre exemple. Là, on va aller un peu plus loin dans le livre de la Genèse, c'est Genèse 19. Au verset 12-13. Et donc là, nous allons dans l'histoire de Lot, que je voudrais mettre en parallèle. Donc Genèse 19, du verset 12 à 13. Donc là, on est, je vous remets dans le contexte, il y a Abraham avec Lot, ils ont de grandes possessions. Et ils en ont tellement que ça commence à faire des émules. Les bergers se chicorent parce que parce qu'il prend l'eau du puits, mais c'est pour moi, etc., etc. Et puis là, ils vont se trouver, Abraham et Lot, ils vont dire, attends, on ne va pas se battre, on est quand même frères. D'accord ? Et donc, Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habitait dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Je voudrais remettre un petit chouïa dans le contexte. Donc, il y a ces conflits entre bergers. Et donc, Lot et Abraham, ils vont se concerter. Et Abraham, voulant la paix, va dire, choisis où est-ce que tu veux t'installer. Il y avait une zone montagneuse et il y avait la plaine, où entre autres, il y avait Sodome et Gomorre. D'accord ? Et Lot... Moi, me parle énormément. Lot va regarder. Regarde, écoutez bien, et ça c'est très important. Lot va regarder la jolie plaine verdoyante. Si vous lisez plus loin, Abraham, lui, va prier pour demander à Dieu ce qu'il doit faire. Mais Lot, lui, il va regarder avec ses petits nonneuils. Et il va choisir la chose la plus facile. Ah ben c'est sûr, entre les montagnes et une plaine, entre une jolie vallée verdoyante, humainement, on fait tous le même choix. Et moi, ça me parle, parce que combien de fois, mes neneuils me conduisent. Et je suis obligé de dire, arrête-toi Vincent. Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est super dur. C'est dur parce que quand tu as déjà pris ta décision, toutes les pensées qui viennent dans ta tête, c'est déjà pour te trouver des bonnes excuses pour y aller. Non. Lot va se laisser guider par ses yeux et va aller dans la vallée. Lot part avec sa femme, ses filles, tous ses troupeaux. Et ça va être une grosse déception. Ils pensaient faire de l'agriculture, ils pensaient pour leurs animaux que ça allait être tranquille. Ça y est, nous savons un endroit tranquille. Sauf que dans cette jolie vallée, quelques centimètres sous terre, il y avait une épaisseur de sel. C'est un terrain incultivable. Quelle idée à Lot de mettre sa tente près de la ville de Sodome et Gomorre, sachant que déjà, c'était une ville qui était renommée pour toute la dépravation qui existait de l'époque. Et ce cher Lot va faire une chose, c'est qu'il, avec le temps, va s'installer dans la ville. Et la Bible dira que ça torturait son âme jour et nuit. Ça ne vous fait pas penser à une petite chose? Combien de fois on se fiche dans la galère? Combien de fois on ne va pas choisir quelque chose, sachant que déjà, un, on n'a pas consulté Dieu, après on va dire, ouais Seigneur, pourquoi t'as permis? J'ai rien permis, tu ne m'as pas demandé. Tu t'es mis tout seul dans la galère. Combien de personnes se mettent tout seul dans la galère et après accusent Dieu? Oh, il y a quelqu'un dans la salle? Tu te mets tout seul dans la galère et après tu vas accuser Dieu. Non mais, oh, redescends sur terre. Est-ce que tu as consulté à l'Éternel quand tu as acheté ta voiture, quand tu vas faire les courses, quand tu vas faire les magasins, quand tu as acheté ta maison, quand tu as choisi ton épouse, ton époux, quand on t'a proposé une place? Est-ce que tu as consulté l'Éternel de dire oui ou non? Ou est-ce que lapin du gain, ou parce qu'il était beau, ou elle est belle, ouah, c'est une super affaire. Bon, t'as pas fait voir que derrière les fondations étaient pourries, que c'était pleine de flotte et que tu as une maison qui est pleine d'humidité? Ou que tu n'as pas demandé et que le Seigneur il sait que tu vas passer par une zone de désert et que tu n'as pas pu pouvoir payer les factures et que ça va être le schpounz dans la maison? Ah oui, on ne part plus en vacances, chérie, on n'a plus les moyens. Il n'a pas demandé. Il se met tout seul dans la galère. Mais en fait, c'est moi. Je me mets tout seul dans la galère. Merci Seigneur, parce qu'il est fidèle et juste pour nous sauver. Mais je me mets tout seul dans la galère. Combien de fois je fais les choses sans demander? Et même chose. Même chose, bah, il va dire à son serviteur, je vais détruire, encore une fois. Il va détruire la ville. Dans Genèse 19, de 12 à 13, l'Éternel déclare, je vais détruire. Ça, ça ne vous rappelle rien, Charles? On vient de le lire il y a 30 secondes. Hein. Que ce soit Noé ou Lot, l'Éternel va détruire. Et souvent, on dit qu'il va juste détruire Sodome et Gomorre. C'est faux. Il va détruire Sodome, Gomorre et la zone autour. Même les champs vont être détruits. C'est pas juste tomber sur la ville. C'est pas juste tomber sur la ville. C'est tomber sur la ville et les champs aux alentours. Tout a péri. Et combien de fois, moi, j'aime Lot. Enfin, j'aime Lot. Non. Disons que plutôt, il me parle beaucoup, Lot. Quand les anges vont venir lui parler, mais c'est dingue. Genèse 19, 12 à 13. Genèse 19, 12 à 13. Donc les hommes, en l'occurrence, ce sont les anges qui ont été envoyés par l'Éternel. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Car nous allons, comme quoi l'Éternel, encore une fois, il prévient et il dit ses plans, car nous allons détruire cet endroit parce que l'Éternel, ce qu'on reproche aux habitants, est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Nous avons deux personnages très différents. Noé reçoit une information, il mettra 80, 85 ans, 75 ans, en soi c'est pas ça l'important, mais il va obéir en tout point à l'Éternel. Est-ce que les enfants, vous obéissez en tout point à vos parents? Parents, est-ce que vous obéissez en tout point aux lois du pays? Est-ce que vous traversez sur les passages piétons? un exemple parmi tant d'autres, hein. Est-ce qu'on n'essaye pas un peu de... Hein? Et Lot va faire la même chose. Déjà, il va aller, essayer, il va aller voir ses gens, qui va leur dire hey, « Dieu va détruire le monde !» Donc Lot, il croit en Dieu, hein, il n'y a pas de problème. Mais après, il dit « Oui, mais attends, j'ai ceci, mais attends, j'ai cela. » Lot est tellement rentré dans le monde, sa femme est tellement rentrée dans le monde, on remet dans le contexte. À l'origine, avant qu'ils arrivent à Sodome et Gomorrhe, ils vivaient sous une tente, avec sûrement les fameux tissus qui se faisaient à l'époque, en coton, tissés, etc. Donc si elle voulait manger, il fallait qu'elle demande à un serviteur de tuer un agneau ou un chevreau ou je ne sais quoi, donc il fallait le préparer, etc. Tu te retrouves avec tout ça, et etc., etc. Là, d'un seul coup, elle découvre la ville. Donc, pour ceux qui habitaient à la campagne, quand ils arrivent à la ville, c'est... Oh, t'as le boucher, tu prends que le morceau qui t'intéresse, et puis là, tu vas chez le marchand de tissus. Oh, de la soie. C'est beau, ça. Du satin. Oh. Puis, j'ai le coiffeur. Et puis là, j'ai peut-être le hammam pour les dames. Et puis, je vais au petit marché pour avoir mes petits légumes que j'aime bien. Et le monde était rentré dans son cœur. Et cette famille était happée par cette ville, malgré que ça soit une ville de débauche à tout point de vue, vu que l'Éternel avait décidé de la détruire, ils en sont incapables d'en sortir. À tel point que la parole déclare que c'est l'ange qui a pris la main de Lot pour le faire sortir. Et il est sorti. Il est sorti avec quoi? Ses deux filles et sa femme. Sans rien. Les anges l'avaient prévenu. Tout ce qui est à toi, fais-le sortir. Il pouvait partir avec toutes ses richesses. Il pouvait partir avec la garde-robe. On prépare les valises, on s'en va. Dardard! Oui, mais attends, tu comprends, attends, je vais aller voir les gens. Il est sorti comme il était habillé. Résultat des courses, après, il a dormi dans une grotte. Ah, la chute, elle est sévère quand même. Hein. On passe de hôtel 5 étoiles à une grotte. Mais combien de fois nous sommes-nous impactés par ce monde? Combien de fois nous sommes impactés par ce monde, mes frères et sœurs? Combien de fois, oui, mais la télé, tu comprends, il y a quand même une bonne émission, et puis attends, moi c'est la salle de sport, et puis moi c'est si, je ne peux pas aller au rayon de prière pour ci, pour ça, et le Seigneur, oui, oh, tu sais, moi, je... De Corinthiens 6, 17, qu'est-ce qu'il dit? De Corinthiens 6, 17 nous annonce quoi, mes frères et sœurs? Et c'était le verset, pour moi, pivot de tout ce message. Parce que c'est le verset qui me parle. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Mes frères et sœurs, je crois, en tout cas moi ça me parle, que ce monde où nous vivons au jour d'aujourd'hui m'impacte trop et je ne suis pas assez dans la présence de Dieu. Parce que je suis attaché à mes petits sous, je suis attaché à mon frigo, je suis attaché à toutes sortes de choses où l'Éternel me dit qu'il pourvoira. Et ça me fait mal parce que j'ai envie de vivre, sa vérité. Et je me rends compte, je suis bloqué, je suis comme si j'étais attaché. Suis-je Lot ou suis-je Noé? Suis-je celui qui va le suivre avec foi? Ou suis-je celui qui va sortir et je vais tout perdre? Quelle est mon identité en Christ? Qui suis-je? Jusqu'à quand je vais attendre ou faire retarder la grâce du Seigneur dans ma vie? Je suis le frein à la présence de Dieu dans ma vie. Apocalypse 18:4 nous dit plus ou moins la même chose. Apocalypse 18:4 dit « Et j'entendis du ciel une autre voix, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. » Mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, nous avons tous encore un choix à faire devant Dieu. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. J'ai décidé de me sanctifier et je me rends compte que c'est dur parce que tout mon être est tendu vers le péché. Mon cœur, mon âme, on peut dire Seigneur, prends tout, c'est le désir de mon cœur. Je peux vous dire que quand ce chant, c'est le désir de mon cœur. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si ce n'est pas lui qui vient m'aider à le faire, c'est impossible. Parce que je suis d'une nature souillée, je suis d'une nature tendue de tout son être vers le péché, loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est moi. Et je vous encourage de tout cœur, de toutes mes tripes, à rejeter toutes ces choses. Parce que vous savez, quand on vit comme cela, mais c'est comme ça que du coup, les disputes dans les familles, les disputes dans le travail, les disputes, et je ne parle pas de ce que certains pourraient penser, parce que je le vis au travail, moi je parle de mon travail, dans ma famille. Parce qu'on aime Jésus, il est là, oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ou tu es pour lui, ou tu es contre lui. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu es pour l'ennemi. Et la parole déclare que si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. Combien j'en ai une au boulot. Elle m'a dit, je ne peux pas lui pardonner. Ou si je lui pardonne, d'abord il faut que je lui fasse une crasse. Il faut que je lui fasse du mal. Parce qu'il m'a fait du mal, je veux lui faire du mal. Et après, je lui pardonnerai. Ben, je suis désolé, hein, ce n'est pas la parole de Dieu. Hein. Et nous avons des exemples extraordinaires de pardon ô combien difficile. Moi, je crois que pour moi, une des pires que j'ai pu entendre, c'était, alors je ne sais pas le prononcer, excusez-moi encore et toujours, c'est Madame Blum, qui ont été emmenées en camp de concentration, où elle a vu son père, sa mère et sa sœur mourir, sous la main d'un soldat allemand, que plusieurs dizaines d'années plus tard, elle a retrouvé dans l'église. Et tout va remonter, ce qui est tout à fait logique. Et l'Éternel va lui dire, maintenant tu vas aller le voir, tu vas lui demander pardon. Quoi ? Et l'Éternel, t'as oublié ce qu'il a fait à mon père, ma mère et ma sœur ? Non, non, tu vas aller le voir. Tu vas aller le voir. Alors, elle ne l'a pas été tout de suite, ça a été un cheminement, je vous fais ça en diagonale. Jusqu'au jour où elle a été capable d'aller le voir. Et cet homme, cette délivrance qu'il a pu vivre, parce que lui vivait avec cette souffrance. Parce que lui, en attendant, il avait été, c'était des ordres qu'il recevait. Et qu'il avait fait des choses horribles. Et qu'il vivait avec cette culpabilité. Moi, j'aime la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, qui dit, je t'ai fait passer de la mort à la vie. Ma grâce a surabondé, donc je t'ai effacé ton péché. Si lui nous a effacé notre péché, comment pouvons-nous pas pardonner aux autres? Comment ne pouvons-nous pas nous tourner vers l'autre? Ben, je vais vous le dire, c'est de l'orgueil. C'est parce qu'on a laissé rentrer en nous des choses. Des fois, ce n'est pas facile, je vous l'accorde. Mais si nous laissons Dieu nous travailler, nous serons capables d'y arriver. Comme cette sœur qui a pu pardonner au bourreau de son père, de sa mère, de sa sœur. Je ne peux pas imaginer ce que c'est. Je ne peux pas imaginer ce que c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que vous avez une décision à prendre. Nous avons tous une décision à prendre. La parole, vous ne pouvez pas la prendre qu'à moitié. Vous ne pouvez pas la prendre qu'à moitié. Ou vous êtes pour, ou vous êtes contre. Ou tu fais partie de la famille, ou tu n'en fais pas partie. J'ai rencontré des gens qui voulaient certaines choses. On leur a expliqué de la façon suivante. En fait, tu veux l'héritage du voisin. Tu ne fais pas partie de la maison, mais tu veux l'héritage. Pour avoir l'héritage, il faut faire partie de la maison. Mais tu ne peux pas demander l'héritage de ton voisin, tu ne fais pas partie de la famille. Tu veux les bénédictions de Dieu? Tu veux l'héritage de Dieu? Tu veux les promesses de Dieu? Il faut que tu fasses partie de la maison. Il faut que tu fasses partie de la famille. Êtes-vous Lot? Où êtes-vous Noé? Matthieu 24, 38. Matthieu 24, 38 nous dit « Car dans les jours qui précéderont le déluge, mais on pourrait dire, car les jours qui vont précéder le retour du Christ, c'est exactement pareil. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé, jusqu'au jour où Jésus entra dans l'arche, où Jésus reviendra. L'arche de Noé était la préfigure d'une alliance particulière. C'est quoi la deuxième arche qu'on connaît dans la parole de Dieu? Allez. C'est quoi la deuxième arche qu'on connaît? Allez les enfants. Indiana Jones, c'est? Ou? Non? Personne? C'est quoi la deuxième arche? L'arche de l'Alliance. C'était le lieu où on venait rencontrer Dieu. Noé, il est rentré dans l'arche, il a été sauvé. La deuxième arche a été l'arche de l'Alliance où on venait rencontrer Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, ni l'une ni l'autre ne sont, même s'il y a encore des petits restes sur le mont Arara, comme quoi la parole de Dieu dit toujours la vérité, mais on veut la cacher. Quelle est au jour d'aujourd'hui la place de l'Alliance? Quelqu'un a une idée? Ben, elle est en vous. C'est vous. Tu es. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tu es devenu dépositaire de sa présence et tu es devenu dépositaire du Saint-Esprit. La Bible déclare, vous êtes le temple du Saint-Esprit et Dieu vit en chacun de nous. Ce qui définit votre importance, ce qui définit le fait est que vous avez une place très particulière dans le regard de Dieu. Tu es, grand et petit, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes dépositaire. On a fait un dépôt en vous de la présence de Dieu. Waouh! Quelle grâce! Dieu a fait en toi le dépôt de Dieu. Il a fait en toi sa maison. Et Dieu te demande, laisse-moi te nettoyer. Laisse-moi agir dans ta vie. Laisse-moi t'emmener là où tu ne connais pas. Là où ton âme sera dans le repos. Là où tu vas prospérer. Là où tu seras dans la bénédiction. génération, là où tes larmes cesseront, là où tu auras la bénédiction à tout point de vue, financière, intellectuelle, sentimentale, physique, familiale. Mais es-tu prêt à m'écouter? Es-tu prêt à te laisser guider par mon esprit? Parce que je veux te mettre à l'abri. Je veux t'emmener dans mes parvis. Je ne veux pas que tu ne saches pas mes plans pour ta vie. Je veux que tu les saches. Mais laisse-moi te parler. Je vais conclure sur une chose toute simple. C'est le moment, mes frères et sœurs. Vous avez le choix. C'est devant vous. Moi, je pleure beaucoup sur ma propre vie de voir à quel point je suis pourri. J'ai pas honte de le dire, j'ai plein de choses qui ne vont pas dans ma vie. Et je soupire après l'Éternel jour après jour. Je suis émerveillé de ce jour après jour de ce que Dieu donne, de l'espérance qu'il nous donne. Nous n'avons pas un père fouettard, nous avons un Dieu qui nous tend la main, qui nous aime. Et quand je suis dans sa présence, je suis émerveillé de son amour qu'il a pour chacun. Je voudrais vous bénir, mes frères et sœurs. Je voudrais vous donner cette envie de chercher sa présence, de vous détourner de toutes ces petites choses qui pourrissent nos vies. Je dis bien nos vies parce que moi aussi j'ai des choses qui pourrissent ma vie. De ces pensées erronées que l'ennemi nous suggère. Si vous saviez à quel point Dieu vous attend, si vous saviez à quel point des fois Dieu y pleure parce que vous ne venez pas le rencontrer. Comme nous avons pu le lire, nous pouvons attrister le cœur de Dieu. Je vous encourage de tout mon cœur de chercher sa présence. Battez-vous, mes frères et sœurs, mais sortez du milieu de ce peuple pervers, de ce monde qui rejette Dieu ou qui vous encourage à être dans le compromis. Dieu nous encourage à être entiers en lui et sa main ne tardera pas à vous secourir. Sa main vous délivrera certainement parce qu'il est l'Éternel des armées, le Dieu puissant et fort, parce qu'il a donné son Fils unique pour chacun de nous. Je peux vous dire une chose, c'est que ça en vaut la peine. Ce n'est pas évident. Je vous vends pas un message à l'eau de rose. Ce n'est pas évident. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Je vous assure, ça en vaut la peine. Amen. Seigneur, je veux te louer et te remercier. Parce que oui, tu es ce Dieu vivant. Et je sais à quel point tu nous aimes. Et combien de fois on se fait avoir à détourner nos regards, à se tourner vers des choses qui ne sont pas à ta gloire. Et nous le savons parce que ton esprit nous parle. Mais combien de fois je l'ai fait taire? Combien de fois j'ai décidé? Combien de fois j'ai eu tort? Combien de fois j'ai fait du mal à mes frères, à mes sœurs, à mes amis, à mon patron, à mes collègues? Seigneur. Je ne veux pas jouer le chrétien. Je veux être renouvelé par toi. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Je suis au même bénéfice que tous mes frères et sœurs. Je ne peux que te rendre la gloire, Père. Que ta grâce vraiment inonde leur cœur, Seigneur. Que ces paroles ne restent pas ici. Mais qu'ils aient cette présence d'esprit de dire, ouais, qui suis-je? À quoi suis-je appelé? De revenir à ce premier amour quand tu es venu parler à nos cœurs et que le voile s'est déchiré et que nous avons compris. Nous savons que l'ennemi, notre âme, veut nous encourager à nous détruire. Quand il ne détruit pas la famille, il détruit les couples. Quand ce n'est pas les couples, il passe par les enfants. Quand ce n'est pas par les enfants, c'est par les amis. Quand ce n'est pas les amis, c'est par toutes sortes, par les collègues de travail, etc. Nous savons que nous avons besoin de toi. Père, je veux te rendre toute la gloire parce que tu ne nous caches rien. Tu ne nous caches strictement rien et tu veux nous emmener dans la pleine lumière de ta présence. Tu veux remplir, tu l'as dit tout à l'heure, tu veux remplir tes enfants. Mais il y a toujours cette condition. Cette condition, bah, c'est d'ouvrir le bouchon. C'est de faire de la place. C'est-à-dire de renoncer, de passer par le renoncement pour avoir la pleine victoire en Jésus-Christ. Combien certains sont en conflit avec l'administration pour avoir leur papier? Combien sont en difficulté pour avoir leur permis? Combien sont en difficulté avec leurs parents, leurs beaux-parents? Combien aspirent à ce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes viennent à Christ parce que les temps deviennent courts? Combien, Seigneur, nous sommes là à soupirer après toi comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau? C'est toi qui nous donnes d'être abreuvé. C'est toi qui nous donnes d'être assoiffé. Parce que c'est toi qui nous donnes l'eau vive. Je ne veux pas que ta parole est une parole morte, c'est une parole pleine de vie, pleine de puissance. Et je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité et à tout jamais. Amen.